Vous êtes sur RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit. Le débat est dirigé par Olivier Bost.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Michel Barnier.
Bonjour.
Le Brexit ressemble désormais à un jour sans fin. Comment allons-nous en sortir, ou plutôt comment les Anglais vont-ils sortir de l'Europe et avec quelles conséquences très concrètes, vous allez nous dire ça. Tout cela à un mois à peine des élections européennes, des élections à très fort enjeu pour l'Europe avec une poussée inédite des souverainistes et des populistes. Voilà le menu, Michel Barnier. Dans notre rubrique, la question en plus, c'est Nicolas Bay, député européen du Rassemblement National et candidat pour le 26 mai, qui vous interrogera sur la Commission européenne avec une question très précise. Et puis posez vous aussi vos questions, faites-nous part de vos commentaires sur rtl.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Nous retrouverons Marie-Pierre Haddad pour Questions Nettes juste avant 13h. À mes côtés pour vous interroger, Alexis Brézet du Figaro.
Bonjour, bonjour.
Et Adrien Gindre de TF1 LCI qui va vous poser la première question de ce Grand Jury.
Bonjour Michel Barnier.
Bonjour.
Hier en France avait lieu une nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes contre la politique d'Emmanuel Macron toujours, mais pas seulement. Certains d'entre eux avaient choisi de se rassembler à Strasbourg parce que c'est l'une des capitales de l'Europe. Est-ce que ce sont eux qui ne comprennent pas l'Europe, ou est-ce que c'est l'Europe qui ne les comprend pas ?
D'une manière générale, il y a un problème entre l'Europe et les citoyens. C'est pas de cette manifestation hier à Strasbourg que cela date. Donc la question qu'il faut se poser, c'est comment on rapproche les citoyens des questions européennes, comme on en parle plus souvent, comme nous le faisons, enfin, dans cette émission du Grand Jury. Pas seulement, d'ailleurs, au moment des élections. Moi, ça fait longtemps que je trouve que c'est pas normal, et c'est même un peu scandaleux quelquefois, que l'on parle de l'Europe seulement quand il y a des crises, la vache folle ou d'autres, un référendum ou une élection. Pourquoi on n'en parle plus, on n'en parle pas plus régulièrement, hein ? Peut-être que ça serait la première réponse à cette question que posent certains Gilets jaunes. Maintenant, il aurait été sans doute plus efficace s'ils avaient voulu rencontrer des députés européens, qu'ils aillent les rencontrer quand ils étaient en session à Strasbourg il y a une dizaine de jours.
Mais vous dites qu'il y a un problème entre les citoyens et l'Europe. Vous dites ça à propos des Gilets jaunes. Au fond,
pas seulement, pas seulement.
Mais c'est ça ce que j'allais vous dire.
Au fond,
le Brexit dont nous allons évidemment parler, les Gilets jaunes, tout ça, c'est l'expression, pensez-vous, d'une même colère, d'un même sentiment ?
Oui, mais ce n'est pas l'Europe qui est d'abord ou seulement en cause. La colère qui s'exprimait, en tout cas au début des manifestations des Gilets jaunes, que j'ai suivi, comme tout le monde, même depuis Bruxelles, il faut l'écouter. C'est une colère sociale, une angoisse, une colère territoriale aussi qui s'est exprimée. Sans doute maintenant est-elle détournée ou utilisée par d'autres forces qui ont d'autres intentions, notamment plus révolutionnaires, si je puis dire, ou plus radicales. Mais cette colère-là, il faut l'écouter parce qu'elle s'exprime un peu partout. On pourra peut-être parler tout à l'heure des leçons du Brexit. Au-delà des conséquences du Brexit que j'essaye de gérer comme négociateur. Les leçons du Brexit, il faut les écouter. C'est le sentiment populaire. Ne pas confondre le sentiment populaire avec le populisme. Le populisme, il exploite le sentiment populaire. Le sentiment populaire, il faut l'écouter, l'écouter, le comprendre et lui répondre.
On reparlera effectivement au moment des élections, des élections européennes, de ce qui doit changer en Europe. Auparavant, expliquez-nous, en tant que négociateur du Brexit, où nous en sommes, en étant vraiment très concret, parce que c'est une affaire compliquée.
Oui, c'est compliqué. En même temps, c'est très concret parce que derrière cet enjeu du Brexit, il y a des millions de gens qui sont inquiets, qui sont dans l'incertitude de leur avenir.
Mais avant de parler des conséquences, dites-nous où nous en sommes.
Nous en sommes dans une période d'attente. Les Britanniques ont voté le Brexit il y a presque trois ans. C'est le choix des Britanniques, c'est pas le choix de l'Union européenne. Nous regrettons, je regrette cette décision. Nous la respectons et nous la mettons en œuvre. Il y a maintenant près de 6 mois qu'on nous sommes parvenus à un accord avec les Britanniques, avec le gouvernement du Royaume-Uni, sur ce projet d'accord qui est ici. Voilà, je peux bien le montrer, non pas à vos auditeurs, mais à vos téléspectateurs.
C'est un
traité de 600 pages. Pourquoi 600 pages ? Parce que il s'agit de répondre par la loi, par le droit, par de la certitude juridique, à des milliers de questions d'incertitude créées par le Brexit. Et concrètement, je vais prendre 2 ou 3 exemples, si vous le voulez bien. Vous avez 4,5 millions de personnes qui sont inquiets sur leurs droits. 3,5 millions d'Européens qui vivent, travaillent, font vivre l'économie britannique, et parmi lesquels beaucoup de jeunes. Et vous avez 1,5 million de citoyens britanniques qui vivent, travaillent, aussi beaucoup de retraités dans l'un des pays de l'Union européenne. Tous ces gens ont des droits légitimes, des droits de résidence, des droits sociaux pour leur pension, leur sécurité sociale. Nous avons trouvé avec les Britanniques dans ce traité une réponse pour sécuriser leurs droits, les droits de leur famille, pour la durée de leur vie, tous les droits
qu'ils ont rejetés à plusieurs reprises.
Je vous parle du contenu de cet accord qui n'est pas encore en effet approuvé. Il y a les questions budgétaires. Les Britanniques ont décidé avec les 27 autres pays de politique et de budget sur 7 ans. Vous savez que le budget européen ne s'établit pas sur un an comme un budget d'une commune ou de l'État français, mais sur 7 ans. Nous avons obtenu avec les Britanniques que tout ce qui a été décidé à 28 soit payé à 28 jusqu'au bout. Voilà ce qui est dans ce traité. Plein d'autres sujets très concrets.
Donc ça, c'est ce que vous avez négocié avec les Britanniques,
avec le gouvernement britannique,
avec Theresa May. Et là-dessus, le Parlement britannique, Theresa May le présente une fois, deux fois, et chaque fois, le Parlement dit non.
Oui, mais ça, c'est le problème britannique.
Oui, mais c'est le problème aussi de tout le monde.
Comment ça pourra s'améliorer d'ici
les mois
prochains ?
La réponse se trouve à Londres, évidemment. 6 mois que le Parlement britannique négocie, discute, et ne trouve pas de majorité positive. On voit s'exprimer successivement des majorités négatives à 3 reprises contre ce traité ou ce projet de traité. On a même vu une majorité négative contre un no deal. On refuse de sortir sans accord, mais ça ne veut pas dire qu'on sortira avec un accord.
La dernière décision a été de donner un délai supplémentaire.
Et la dernière demande du Parlement britannique...
À quoi peut servir ce délai supplémentaire ?
Du Parlement britannique et du gouvernement, c'est de demander un délai supplémentaire.
Ce délai
et les dirigeants européens... qui veulent faciliter les choses, qui veulent permettre aux Britanniques de trouver un accord, ont donné ce temps.
Maintenant, jusqu'au 31 octobre.
Jusqu'au 31 octobre, ce temps ne peut pas être indéfiniment prolongé, comme l'a d'ailleurs dit récemment Jean-Claude Juncker. Ce temps, il doit être utilisé. Il ne peut pas être gaspillé par les Britanniques. Il faut qu'ils l'utilisent pour trouver un accord. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Pourquoi a-t-on donné ce temps supplémentaire ? Parce qu'on a vu Mme May qui, enfin, a décidé d'ouvrir le dialogue avec l'opposition.
Certains vous dites enfin.
Oui, parce que il faut respecter les traditions britanniques. Et moi, je suis très respectueux du processus démocratique et parlementaire britannique, mais qui n'est pas le même que le nôtre ou que celui de l'Allemagne. Il y a moins d'habitude au Royaume-Uni de dialogue cross-party, comme on dit en anglais, entre les partis
politiques. Donc elle a une responsabilité dans les votes négatifs.
Mais enfin, j'observe que rien n'a été fait pour construire une majorité positive sur ce traité depuis un an et demi.
Donc
se sont construites des majorités négatives. On ne peut pas faire une sortie ordonnée du Royaume-Uni avec des majorités négatives. Voilà où nous en sommes.
Et pour vous, l'échéance, c'est...
Semaine, qui est une semaine très importante, nous sommes à la veille du début de cette semaine où nous aurons le résultat des discussions entre le parti travailliste, Jeremy Corbyn, que j'ai d'ailleurs reçu 4 fois à Bruxelles, et le gouvernement de Mme May. Est-ce que ces négociations vont donner quelque chose ? Il ne s'agit pas de remettre en cause ce traité. Les deux parties sont d'accord pour considérer que ce traité est le seul possible.
Et moi, je le pense aussi. Ce document que vous avez entre les mains, jusqu'au 31 octobre, vous dites on n'y touchera pas, on ne changera pas une ligne de ce...
Non, ce traité, les dirigeants européens, au nom desquels je parle, ont dit... qui ne sera pas négociable, qui ne sera pas réouvert. Et Mme May le dit aussi, et Jeremy Corbyn également. Ce qui est discutable, au sens propre du terme, ce qui peut être négocié, amélioré, c'est cet autre document.
Beaucoup plus petit, que
je vous invite à lire, qui est d'ailleurs sur Internet, comme d'ailleurs tous les documents de cette négociation, qui est une négociation que nous avons conduite, que j'ai conduite depuis 2 ans, dans une totale transparence.
Alors de quoi s'agit-il de ce document ?
Il s'agit d'une déclaration politique agréée avec les Britanniques qui fixe le cadre de la future relation. C'est une chose de divorcer. Encore une fois, nous le regrettons.
C'est-à-dire que vous commencez à préparer l'étape d'après.
Et nous avons organisé ce divorce grâce à ce traité. Et puis, après le divorce, on ne va pas en rester là. Il faut qu'on rebâtisse avec ce grand pays qui est le Royaume-Uni, un pays voisin, partenaire économique, ami, définitivement allié.
Pour bien comprendre, c'est-à-dire que vous entamez les discussions futures.
Nous sommes prêts à entamer les négociations futures pour construire un nouveau partenariat à travers ce document de 26 pages qui fixe précisément ce que nous allons faire en matière commerciale, en matière sectorielle.
Et ça, c'est en discussion à partir de la semaine prochaine ?
Non, ça sera en discussion à partir du moment où le traité sera ratifié. Ce qui est en discussion, ce n'est pas un mandat de négociation, c'est une déclaration politique qui fixe le cadre. Nous pouvons encore préciser ou améliorer ce document. Par exemple, nous avons toujours dit que les modèles de coopération que nous avons avec d'autres pays dans le monde, des pays tiers, la Norvège, la Turquie ou d'autres, étaient disponibles. Chacun de ces modèles a son propre équilibre de droits et d'obligations. Mais par exemple, si les Britanniques nous demandaient, ce qu'ils ne font pas aujourd'hui, ce que le Parti conservateur ne veut pas aujourd'hui, d'avoir avec nous un accord de libre-échange, au-delà de cet accord, d'avoir une union douanière, nous serions d'accord pour donner, pour avoir une union douanière avec le Royaume-Uni, en plus de l'accord de libre-échange.
Est-ce que ça rendrait le Brexit, entre guillemets, moins douloureux, notamment sur le plan économique ?
Je ne vais pas répondre au nom des Britanniques. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'être dans une union douanière, ça veut dire avoir une politique commerciale commune, ça veut dire parler avec M. Trump ou avec le président chinois d'une seule voix. Mm-hmm. Moi, je pense que, par exemple, c'est l'intérêt de la France. Je pense que c'est l'intérêt de l'Allemagne.
C'est aussi une concession qui est faite aux Britanniques et qui est sur la table depuis un moment. Et pour autant, ça ne suffit pas, puisqu'ils ont quand même refusé le traité.
Ils n'ont pas trouvé un accord entre eux, entre les travaillistes qui sont pour cette union douanière et le gouvernement de Theresa May, n'ont pas trouvé un accord sur ce point.
Vous pensez qu'ils peuvent encore le trouver ?
J'espère qu'ils peuvent le trouver. Je
vous
peux exprimer des vœux.
Adrien Gendron.
Je pense que ce serait l'intérêt du Royaume-Uni que de trouver un accord sur cette sortie ordonnée, quitte à augmenter la demande britannique, nous sommes prêts à l'entendre, de cette demande d'une union douanière.
Et est-ce qu'il peut y avoir un intérêt à organiser un nouveau référendum, ou pour vous, ce serait le pire des scénarios ?
Mais vous m'interrogez comme négociateur de l'Union européenne. Oui. Je ne vais pas, moi, dire aujourd'hui au grand jury RTL ce qui est bon ou utile au Royaume-Uni. C'est au Royaume-Uni, au Parlement britannique, aux forces politiques britanniques de prendre leurs responsabilités et d'assumer enfin les conséquences du choix qui a été fait par une majorité des citoyens au Royaume-Uni il y a près de 3 ans de quitter l'Union européenne. Il y a 3 issues à ce processus. Ou ils sortent avec un accord, c'est cet accord qui est le seul possible, il n'y en aura pas d'autre, mais nous pouvons améliorer le cadre de notre future relation, être plus ambitieux dans ce partenariat. Ou ils sortent sans accord, ce qui a des conséquences sérieuses chez nous, on peut en parler, mais beaucoup plus graves encore pour le Royaume-Uni, puisqu'il tomberait dans le régime de l'Organisation mondiale du commerce, avec des taxes et des tarifs et des contrôles sur tous les produits importés et exportés. Ou alors, il décide de revenir en arrière, c'est un choix britannique, ce n'est pas à moi de le dire, à travers un référendum ou des élections, et d'arrêter le Brexit. Voilà les 3 issues possibles. Ou un accord pour sortir de manière ordonnée, ou un accord, ou pas d'accord, et il sort de manière désordonnée, ou alors un retour en arrière,
selon
pas de Brexit.
Selon vous, pour l'Europe, la meilleure des solutions, ça serait quoi ?
La meilleure des solutions dans la situation que je constate d'un pays qui exprime la volonté de sortir de l'Union, et nous devons être très attentifs à respecter dans notre attitude, dans mon comportement, j'ai toujours évité le moindre esprit de revanche ou de punition. Je n'ai jamais fait preuve d'agressivité. Je ne vais pas commencer aujourd'hui parce que je regrette cette décision. Mais nous devons la respecter, cette décision souveraine du peuple britannique qui doit être respectée. Maintenant, je vous ai dit, dès le début de cette émission, que je regrettais le Brexit. J'ai même, pour la petite histoire, exprimé mon tout premier vote comme jeune citoyen français. En 1972, vous vous en souvenez peut-être, il y a eu un référendum en France, organisé par le président de la République, Georges Pompidou, pour demander aux Français s'ils étaient d'accord pour l'adhésion du Royaume-Uni, de la Norvège, du Danemark et de l'Irlande. Et j'étais, et je suis toujours membre du Parti gaulliste, j'ai fait campagne, sans le regretter, pour le oui à l'accession du Royaume-Uni. Donc je vous dis que je regrette cette décision. Voilà ma réponse.
Une autre question sur le Brexit qui est une question compliquée, et là il faut vraiment une réponse simple, sur la question de la frontière entre les deux Irlandes. Votre accord prépare l'absence de frontière entre les deux Irlandes. Apparemment, c'est un point de blocage pour la partie britannique.
Ça fait 20 ans qu'il n'y a plus de frontière. Ouais. Et c'est une des conditions de la paix en Irlande. Et c'est bien davantage, je le dis avec gravité, c'est bien davantage qu'une question liée aux marchandises, aux échanges, au commerce. C'est une question qui touche les hommes et les femmes. J'étais il y a quelques mois en Irlande du Nord, où j'ai beaucoup d'attaches comme en République d'Irlande. Et en Irlande du Nord, j'ai rencontré près de Derry, Londonderry, lieu où il y a eu une tragédie, on s'en souvient, un groupe de femmes dans une petite commune qui s'appelle Dungannon, qui travaillent de part et d'autre de la frontière avec le soutien de l'Union européenne. Le programme Peace. Et nous étions entre nous, il y avait une quinzaine de femmes, pas de journalistes, excusez-moi, et j'ai vu plusieurs de ces femmes pleurer en me disant, du fond de leur cœur, il ne faut pas que ça recommence. Ne laissez pas recommencer la situation. La situation en Irlande est très fragile. La paix est très fragile. Et l'une des conditions de la paix, c'est qu'il n'y ait pas de frontières. Donc, nous sommes engagés, le gouvernement britannique, nous-mêmes, et d'autres partenaires, évidemment, le gouvernement de Dublin, à ce qu'il n'y ait pas de frontières. Sauf que
placer la frontière à l'échelle de l'Irlande, ça a une symbolique.
Sauf que dès l'instant où le Brexit se produit, ça crée des problèmes. Et en Irlande, ce qui crée un problème, c'est le Brexit, rien d'autre. Pourquoi ? D'abord parce que le Royaume-Uni quitte non seulement l'Union européenne, mais veut quitter le marché unique et l'Union douanière. Ce qui veut dire qu'il crée de facto, par sa décision, un autre territoire douanier indépendant de celui de l'Union européenne. Et il n'y a aucun exemple, vous m'entendez bien, aucun exemple dans le monde où deux territoires douaniers distincts n'ont pas de frontières entre eux et n'effectuent pas de contrôle entre eux. Pourquoi ? Parce que toute marchandise qui va rentrer en Irlande du Nord, en provenance de Grande-Bretagne, de l'autre côté de la mer, venant du même pays, un animal vivant, et c'est l'ancien ministre de l'Agriculture qui vous parle, qui peut comporter un risque de sanitaire, doit être contrôlé. Parce que cette marchandise ou cet animal vivant, en entrant en Irlande du Nord, rentre en France, rentre en Belgique, rentre en Allemagne.
Vous dites qu'il faut éviter le retour d'une frontière en dur.
Donc le défi est précisément, M. Brézet, que nous fassions les contrôles sans faire de frontières.
C'est ça. Mais s'il y a no deal, il y aura bien la frontière qui reviendra.
Et nous nous préparons à cette situation avec les autorités d'Irlande de manière précise, parce qu'il faudra effectivement faire ces contrôles dans l'urgence et dans un premier temps sans la coopération des autorités britanniques. Mais moi, je ne me situe pas, même si nous nous y préparons, alors à cette situation de no deal. Qu'est-ce que j'ai proposé dans ce traité au nom des 27 pays de l'Union et une de solutions que Mme May a acceptée, c'est de dire nous allons chercher avec le Royaume-Uni dans notre future relation le moyen d'éviter une frontière. Ça, c'est la prochaine négociation que j'évoquais tout à l'heure, qui va demander au moins 2 ans et sans doute 4 ans. Ou alors nous ferons un accord particulier entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur l'Irlande pour éviter une frontière. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé l'une ou l'autre de ces deux solutions, alors, pendant ce temps-là, le Royaume-Uni tout entier sera maintenu dans notre territoire douanier européen. C'est une solution que les Britanniques eux-mêmes m'ont proposée. C'est ça qu'on appelle le backstop. C'est comme une assurance, comme celle que vous avez dans votre maison pour un cas d'incendie ou de drame. Et cette assurance, nous ne souhaitons pas l'utiliser. Mais nous l'avons là pour garantir qu'il n'y aura pas de frontières en Irlande.
Michel Barnier, est-ce que les 27 sont vraiment prêts pour un Brexit sans accord ? Parce que, sans être au cœur des négociations, quand on regarde ça de loin, on se dit, si les 27 étaient prêts, pourquoi avoir accordé un délai supplémentaire au Royaume-Uni ? Pourquoi avoir cette attitude face aux Britanniques et ne pas être plus ferme dans l'attitude qui est choisie ?
Précisément parce que nous souhaitons donner toutes les dernières chances possibles un accord pour un retrait ordonné.
Mais vous me dites, nous sommes prêts malgré tout.
Mais nous sommes prêts. Voilà maintenant plus d'un an et demi que la Commission européenne, le secrétariat général, le président Juncker, tous les services de la Commission travaillent avec les 27 États membres, avec les secteurs professionnels, avec les services des douanes pour préparer la situation d'un no deal qui serait, encore une fois, sérieux pour nous.
C'est quoi les conséquences ? Parce qu'on ne comprend pas bien, on dit c'est sérieux, mais c'est concrètement...
Ça veut dire des contrôles et des taxes.
Ouais. C'est quoi, c'est pour les entreprises françaises que ça va être plus compliqué ? Elles ont plus de mal
surtout
à exporter ?
Surtout pour les entreprises britanniques.
Oui, ça on l'a compris.
Et pour les Européens, quelles conséquences économiques pour nous ?
Ça veut dire pour certaines régions et certains secteurs, notamment la pêche, et j'ai aussi été ministre de la pêche, donc c'est un secteur auquel je reste très attentif, des difficultés conjoncturelles que nous préparons. Il y a eu 90 notices, pardonnez-moi, je ne veux pas être techno, mais précis, 90 notices offertes
à tous les secteurs. Notice pour nos téléspectateurs et auditeurs.
Une notice est un document d'explication de ce à quoi il faut se préparer, secteur par secteur. Si vous parlez du transport maritime, du transport routier, du contrôle des douanes, de l'exportation des produits frais, un no deal, ça veut dire 10% de taxes sur les produits frais au Royaume-Uni supplémentaires. Voilà ce que ça veut dire.
Emmanuel Macron lui avait plaidé pour un calendrier plus resserré. Il s'est retrouvé isolé lors du dernier Conseil européen. Vous étiez sur la même position que lui ou pas ?
Moi, je suis négociateur de la Commission européenne et le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a exprimé un soutien à l'idée d'une prolongation plus longue pour donner plus de temps.
Et Emmanuel Macron disait, bon, maintenant, ça va bien, et, si les Anglais veulent partir, qu'ils partent.
Oui, mais il y a une discussion. Écoutez, franchement, voilà maintenant 3 ans que je suis dans cette mission, 2 ans que j'ai négocié avec les Britanniques, je me suis toujours efforcé de mettre l'unité du projet européen et l'unité des Européens au cœur de cette négociation. Et nous y sommes parvenus. Mmh. Est-ce que ça veut dire que cette unité, elle est tombée du ciel, qu'elle a été donnée par hasard? Non. Nous l'avons cultivée tous les jours. Et on la cultive entre des gens qui n'ont pas forcément, sur chaque sujet, la même position.
Pourquoi ce cavalier seul, alors, d'Emmanuel Macron?
Non, il a exprimé le souhait qu'il fallait mettre une pression supplémentaire pour permettre ou encourager ce vote. D'autres chefs d'État ont dit il faut donner plus de temps parce que c'est la pression, notamment l'obligation d'organiser des élections européennes au Royaume-Uni, qui peut servir de déclencheur. Donc, c'était un débat assez légitime. Et au bout de la route, comme toujours, la discussion s'est faite entre les dirigeants européens. Et je participais à cette réunion à l'invitation du président Tusk. Il y a eu un compromis qui a été trouvé. Je crois qu'il est raisonnable à la date du 31 octobre. Mais il n'y a pas de débat ou de division sur le fond du sujet. C'était simplement, est-ce qu'on donne 1 an, 8 mois, 6 mois ou 2 mois? Voilà, c'était ça la question.
Et donc entre
les,
donc,
la question, excusez-moi, c'est que les Britanniques, quel que soit le temps qu'on leur a donné, et on leur a donné jusqu'au 31 octobre, utilisent ce temps et ne le gaspillent pas, et c'est leur responsabilité. Nous ne ferons pas ce choix à leur place. Le choix doit être fait par les Britanniques.
Dire, une des complications, c'est que d'ici le 31 octobre, il y a les européennes, il y a les élections, et donc on se retrouve dans la situation où les Britanniques vont participer aux élections européennes.
Oui, mais pendant ce temps-là, le Parlement britannique continue à siéger.
Oui, certes.
Mais le Parlement britannique, la Chambre des communes, continue à siéger jusqu'au mois de juillet. Donc le temps peut être pris ou trouvé de faire un accord.
3 ans après le Brexit, les Anglais vont être appelés à voter pour les élections européennes.
Oui,
il y aura des députés anglais au Parlement européen.
Parce qu'ils sont incapables de décider sur les conditions de leur sortie.
Et ça veut dire qu'ensuite...
Légalement, monsieur le Président, légalement, tout pays qui est membre de l'Union européenne, et c'est le cas des Britanniques jusqu'au moment où ils sortent, et ils ne sont pas sortis, doit organiser des élections. Ne serait-ce que pour protéger les droits des citoyens, y compris des citoyens européens, qui ont le droit de vote à Londres.
Et ça veut dire, M. Barnier, qu'ils continueront de voter pour les politiques européennes une fois siégés au Parlement,
ces députés britanniques ? Oui, avec un code de bonne conduite, un devoir de loyauté qui est exprimé par les dirigeants européens.
Mais ils vont être élus là.
Mais je veux bien reconnaître.
Mais ils ne siégeront que jusqu'au 31 octobre, si on suit.
S'ils sortent le 31 octobre, ils sortiront le 31 octobre du Parlement européen, comme le commissaire européen qui aura été désigné ou qui siégera encore devra sortir à ce moment-là.
Vous parliez tout à l'heure des leçons qu'on doit tirer de ce Brexit. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il faut revoir le fonctionnement des institutions européennes, le rapport à la population qu'on évoquait en début d'émission? Fondamentalement, qu'est-ce qu'il faut transformer en Europe pour qu'un tel scénario...
Je veux juste un mot dire que pour les élections européennes, je reconnais qu'il y a un paradoxe, qu'il y a même une certaine incompréhension. Mais c'est le droit, c'est le traité européen qui s'applique et nous devons respecter ce droit qui est le droit de vote des citoyens britanniques et des citoyens européens qui vivent au Royaume-Uni, qui ont le droit d'être représentés aussi comme un citoyen de tout pays qui peut voter chez nous aux élections européennes.
Donc on aura cette situation cocasse. Mais est-ce que effectivement l'Europe, depuis trois ans, a su répondre à l'enjeu du Brexit et on a tiré les conséquences?
D'abord, la première leçon qu'il faut tirer du Brexit, c'est qu'il faut dire la vérité quand on fait un référendum.
Ce qui n'a pas été le cas au Royaume-Uni.
Ce qui n'a pas été le cas. On a fait croire aux Britanniques des choses qui ne sont pas vraies. Je recevais il y a quelques mois M. Farage, qui était à la pointe du combat du Brexit et qui l'a gagné. M. Farage m'expliquait les raisons du Brexit. Et à un moment donné, je l'ai coupé, je lui ai dit tout de même, vous avez dit des choses qui n'étaient pas vraies dans cette campagne. Votre bus rouge, sur lequel vous avez promis de récupérer 350 millions de livres chaque semaine, les ramener de Bruxelles pour les donner aux services de santé britanniques.
C'est un avertissement pour tous ceux qui voudraient organiser un référendum
non,
et avoir l'idée de sortir de l'Europe.
Ça n'est pas un avertissement contre l'idée de référendum.
Oui, mais sur l'idée de sortir de l'Europe.
Il faut respecter les citoyens et leur dire la vérité.
D'accord.
Quand on fait croire aux entreprises britanniques, comme ça a été le cas il y a 3 ans, qu'elles vont garder le même accès au marché unique sans avoir les obligations qui sont imposées aux entreprises allemandes, françaises ou belges, c'est pas vrai. C'est un mensonge. Et donc, la première leçon que je tire, c'est qu'il faut respecter les citoyens
et, pour les et leur dire la vérité. Pour l'Europe.
Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi 52% des Britanniques ont voté contre l'Europe. Et quand on regarde, il y a bien sûr des raisons britanniques liées à ce qu'ils appellent Global Britain, peut-être une certaine nostalgie. On a aussi en France parfois de la nostalgie de ce que nous avons été, et on refuse parfois de regarder le monde tel qu'il est ou tel qu'il va devenir. Il y a sans doute des gens qui n'aiment pas beaucoup les règles, notamment les règles européennes de supervision ou de régulation financière. Les gens de la City, que je connais bien, pour avoir construit ces règles avec eux pour la plupart. Mais il y a des raisons plus profondes, et c'est ce que j'appelle le sentiment populaire. Le sentiment que l'Europe ne protège pas, que l'Europe a laissé se désindustrialiser trop de régions, qu'elle laisse des gens à l'abandon. Ce sentiment-là, il n'est pas seulement dans certaines régions des Midlands britanniques. On le rencontre en Picardie, on le rencontre dans beaucoup de régions françaises du Nord.
C'est une réalité.
Et on voit bien d'ailleurs, quand on regarde les votes extrêmes qui expriment la même colère, le vote d'extrême droite chez nous, parfois d'extrême gauche, que ce vote suit plusieurs autres courbes, et c'est intéressant de les comprendre. Elle suit, cette vote extrême, la courbe du vote, la courbe du chômage, logiquement. Elle suit une autre courbe, qui est la courbe qui indique la distance de votre maison à une gare. Et une quatrième courbe qui indique la distance de votre maison à un médecin. Ça, ça veut dire un sentiment qui s'est exprimé à propos des gilets jaunes, d'exclusion ou d'abandon. C'est ça, cette colère.
Et donc, on reviendra sur ce...
Et moi, je pense qu'il y a des réponses.
On reviendra sur ce sentiment et ses réponses, mais pour l'instant, la question en plus, elle vous est posée par Nicolas Bay, député européen et candidat du Rassemblement national.
Le grand jury, la question en plus.
Monsieur Barnier, vous êtes un représentant de la Commission européenne, or c'est justement la Commission européenne qui symbolise ce que les peuples ne supportent plus dans le fonctionnement actuel de l'Union européenne. En effet, elle accapare des pouvoirs qui sont considérables et fonctionne de manière opaque et même punitive. Partout sur le continent s'exprime la volonté d'une Europe plus démocratique. Pour sauver l'Europe, n'est-il pas temps de supprimer la Commission européenne pour redonner le pouvoir aux nations et à leurs représentants légitimes dans le cadre de coopération librement consentie ?
Votre réponse, Michel Barnier ?
Ma réponse, ça, c'est que c'est de la démagogie, ce qui ne m'étonne pas de M. May. Mmh. Il faut combattre la démagogie par la démocratie, c'est une phrase du général de Gaulle, combattre la démagogie par la démocratie et aussi par, dans cette démocratie, l'explication. La Commission européenne, il faut être juste avec elle. Parfois, il y a trop de bureaucratie. Sans doute, on pourrait mettre plus de démocratie. Sans doute, il y a été lu trop de lois et de textes qui encadrent la vie quotidienne des gens. D'ailleurs, Jean-Claude Juncker, à qui il faut donner acte de ce qu'il fait et de ce qu'il a fait, a réduit très substantiellement le nombre de lois produites par la Commission européenne. Mais la Commission, elle joue un rôle, je veux juste le dire à ceux qui nous écoutent, extrêmement simple. Qui est celui d'un personnage qui n'existe pas en Europe, qui est le Premier ministre. Nous ne sommes pas une nation européenne. Et nous ne voulons pas être une nation européenne. Il n'y a pas un peuple européen. Il y a 28 peuples européens qui ont d'ailleurs la pratique de 24 langues auxquelles ils tiennent. Il n'y a pas un État européen. Nous ne voulons pas un État européen. Il y a 28 pays, 28 nations, 28 peuples qui ont décidé de coopérer. Je veux réutiliser un mot qui, pour moi, symbolise le mieux le projet européen, qui est le mot de mutualiser. Les agriculteurs connaissent bien. Mutualiser leur destin, une partie de leur politique et même une partie de leur souveraineté pour construire une souveraineté européenne. C'est un concept qu'a évoqué récemment le président Emmanuel Macron et dans lequel je me reconnais.
Il évoque un peu moins, là.
Voilà ce qu'ont décidé les Européens. Et ça, ça ne peut pas être simple. Donc il y a une institution qui joue le rôle du Premier ministre qui n'existe pas, puisque nous ne sommes pas un État fédéral, qui est le rôle du Premier ministre. Et c'est cette institution collégiale que M. Bay condamne, et qu'il a tort de condamner, qui fait des propositions. Je veux simplement...
On y reviendra après la...
Non, mais laissez-moi terminer sur l'explication de la Commission européenne. La Commission européenne...
Juste après la pause, on y reviendra également sur les élections européennes.
Propose à ceux qui décident, et ceux qui décident, ce sont les deux chambres, la Chambre des États, le Conseil des ministres, et la Chambre des citoyens, le Parlement européen.
On continue d'en parler dans un instant pour la suite du Grand Jury. À tout de suite.
suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, Michel Barnier. Le débat est dirigé par Olivier Bost.
Nous parlions juste avant la pause, Michel Barnier, de la Commission européenne et nous allons continuer avec Alexis Brézet du Figaro.
Et nous parlions aussi du rapport entre les peuples et les institutions européennes. Et vous nous disiez finalement, les peuples, à propos du Brexit, ne se sentent pas protégés. Question sur ces trois années, qu'est-ce qui a été fait et surtout qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit par exemple le dossier Alstom-Siemens? Est-ce que le nécessaire a été fait pour que les peuples se sentent davantage protégés?
Oui, je pense que, et le président de la Commission européenne par ses propositions, par exemple, une proposition soutenue par la France d'ailleurs, par le président Macron sur le contrôle des investissements étrangers en Europe, qu'on sache qui achète quoi chez nous. Quels sont les actifs stratégiques qui peuvent disparaître, être achetés par on ne sait qui.
Pour se défendre des Chinois et des Américains, notamment.
Par des outils de défense commerciale plus importants. C'est ce qui a permis, par exemple, de sauver une filière qui est très populaire, qui est celle du cycle, du vélo. Mm-hmm. On a une production de vélos européenne qu'on n'aurait plus si on n'avait pas protégé contre le dumping chinois les productions européennes. Par plus de réciprocité dans nos échanges commerciaux. Vous parliez de protection. La première demande des citoyens européens, c'est paradoxal, parce que c'est un sujet que les gouvernements ont toujours voulu garder pour eux, c'est la défense et la sécurité. On voit que dans ce domaine, la Commission européenne, les gouvernements, il y a quelques jours encore, le Parlement européen ont approuvé, enfin, des premiers outils, un fonds européen de défense d'une douzaine
Donc
de milliards d'euros.
Donc vous dites des conséquences ont été déjà tirées du Brexit.
Quelques-unes des conséquences ont été tirées.
Mais on peut vous opposer tout un tas de dossiers qui n'ont pas avancé, que ce soit sur la taxe des GAFA, des géants du numérique, que ce soit sur l'immigration, c'est des dossiers qui n'ont pas du tout avancé.
Je ne prétends pas, et vous n'entendrez jamais dire que tout est parfait à Bruxelles. Je veux simplement rappeler, puisque les choses sont compliquées, entre ces 28 pays, pour l'instant 28, qui travaillent ensemble, qui mutualisent, cette commission qui joue le rôle au centre que quelqu'un doit jouer du Premier ministre européen qui propose à ceux qui décident, je le redis, ceux qui décident démocratiquement, ce sont les gouvernements, le Conseil des chefs d'État et les conseils des ministres et le Parlement, le Parlement des citoyens. Tout n'est pas parfait, il faut se mettre d'accord. Souvent, il faut se mettre d'accord à l'unanimité. Vous parliez de la taxe GAFA, on pourrait parler d'un autre impôt dont j'ai toujours du mal à comprendre comment on peut le voir divisé en une vingtaine de bases différentes. Je ne parle pas des taux, c'est l'impôt sur les sociétés. Pourquoi on n'arrive pas à harmoniser les bases de l'impôt sur les sociétés dans le même marché unique? C'est parce qu'il y a cette règle de l'unanimité qui fait qu'un ministre peut bloquer tous les autres par son droit de veto. Voilà ce qui ne va pas ou ce qui doit être changé. Mais je veux dire que les changements ont été commencer et qu'il faut les amplifier, notamment en s'adressant aux citoyens pour leur montrer la valeur ajoutée d'être ensemble. C'est ça le problème. Et c'est ce devoir d'explication et de respect que je voudrais qu'on développe au niveau des citoyens.
Il n'est pas fait.
Il n'est pas suffisamment fait. Je pense que les dirigeants européens, les dirigeants de chaque pays, comme le fait d'ailleurs le président de la République, doivent faire la pédagogie du monde. Parlons, vous parliez, M. Brézet, des grands groupes.
Oui, Alstom, et notamment la constitution d'un champion européen dont finalement la Commission n'a pas voulu.
Parce qu'elle a appliqué un traité qui n'a pas été changé. Et moi, je pense que ce n'est pas d'ailleurs la première réponse de changer ce traité, c'est de mettre en place une stratégie industrielle pour permettre l'émergence et le soutien à des champions.
Et vous êtes en accord avec cette décision sur le fond, vous le regrettez.
Mais cette décision, elle est logique. Elle ne pouvait pas être prise autrement dans le traité actuel. Ce qui manque, c'est une politique de référence en matière industrielle.
Mais ça, c'est incompréhensible pour les citoyens de se dire.
C'est
un traité qui nous oblige à prendre une mauvaise décision.
Parce que les traités ne sont pas bons.
Il faut donc modifier ou les traités ou compléter les politiques. Et quand j'entends un ministre allemand et Bruno Le Maire expliquer qu'il faut bâtir une stratégie européenne industrielle, je pense qu'ils ont raison. Armée sur le plan extérieur, sur le plan commercial, par moins de naïveté, armée à l'intérieur par la capacité d'investir en faisant bouger les règles des aides d'État, voilà ce qui peut être fait, et construire des filières en commun. Parlons concrètement, si vous voulez bien. Quand vous regardez les 20 entreprises les plus importantes du monde dans le domaine du numérique, de la communication, de technologie, il y a 20 entreprises. Il y en a 11 qui sont américaines et 9 qui sont chinoises. Voilà la réalité. Alors que la plupart de ces grandes entreprises, il y a 25 ans, étaient européennes. Nous reculons. Et si on ne regarde pas le monde tel qu'il est, les yeux ouverts, alors on sera foutus. Si on n'est pas ensemble pour bâtir des filières industrielles sur les batteries et sur les grandes industries, comme nous l'avons fait sur Airbus, comme nous l'avons fait sur Ariane et l'espace, on a prouvé que c'était possible. Donc il faut continuer. Je veux dire là, c'est aussi pourquoi on parlera sans doute de politique un peu plus tard, si nous avons le temps, et je suis prêt à parler politique avec vous. Il faut être européen en plus d'être patriote. Il faut être européen en plus d'être patriote. Il y a un de mes anciens collègues de la Commission européenne, Chris Patten, qui un jour, qui est britannique, conservateur. Un de mes amis qui a fait un jour une conférence sur le thème intéressant pour tous les journalistes que vous êtes et les citoyens qui m'écoutent. Est-ce que la défense de l'intérêt national est toujours seulement nationale ? Moi, je ne le pense pas.
Mais quand on vous écoute, Michel Barnier, on a l'impression que ce ne sont pas vos amis politiques qui sont au pouvoir en Europe, mais vos adversaires. On a l'impression que vous déplorez une politique qui n'irait pas assez loin, qui ne serait pas justement dans la direction...
Mais ce sont mes amis. La qualité de l'amitié, c'est de dire ce qu'on pense. Et mes amis, si je puis dire, ils sont dans beaucoup de forces politiques. Peut-être, si on dit un mot des élections européennes et de l'issue de ces élections, une réalité qu'il faut bien comprendre et qu'il faut regarder avec lucidité, c'est que pour la première fois au Parlement européen, qui va être élu dans 4 semaines... il n'y aura pas de majorité avec un groupe politique seulement, même pas avec 2 groupes, et même pas avec 3 groupes. Il y faudra sans doute 3 ou 4 groupes pour faire une coalition ou une majorité de projets. Ça veut dire quoi ? Je le dis très franchement, que le groupe du Parti populaire européen, qui est ma famille politique, les chrétiens démocrates, dont font partie M. Bellamy ou Arnaud Danjean ou Jean Bizet qui est ici, ce groupe-là, parlementaire, devra travailler avec le groupe socialiste dont fait partie, dont fera partie M. Glucksmann. Devra travailler avec le nouveau groupe central, libéral En Marche, dont feront partie Nathalie Loiseau ou Pascal Canfin. Et sans doute aussi devra travailler avec le groupe des Verts.
Mais est-ce que pour changer l'Europe, c'est une configuration plus facile ?
Elle sera obligatoire. Elle sera obligatoire. La vérité est là. Le prochain Parlement européen sera tel entre les forces populistes, souverainistes, qui veulent tout bloquer ou revenir en arrière,
et ces les groupes... Ces forces-là, elles peuvent arriver en tête ?
Non, je pense que ce qui est probable, c'est que ce groupe sera entre 25 et 30, 35% du Parlement européen. Donc ça veut dire que les autres...
Les différents groupes populistes, conservateurs, eurosceptiques, parce qu'ils sont eux-mêmes divisés en 2-3 groupes.
Je
ne
vais pas faire de spéculation, c'est aux électeurs de s'exprimer, pas à moi.
Mais vous dites...
Mais les sondages tels que je les lis, et vous aussi aujourd'hui, donnent à ces groupes populistes une force beaucoup plus importante qu'aujourd'hui,
mais pas la majorité. De devenir majoritaire.
Ce qui veut dire que ceux qui veulent que l'Europe change, protège davantage, agisse plus, ceux-là devront travailler ensemble. Voilà la vérité.
Qui est-ce que vous voterez, vous ?
Comment ?
Pour qui est-ce que vous voterez, vous ? Pour quelle liste ?
Mais ce n'est pas une question, franchement, qui se pose pour moi. Je suis membre des Républicains. Mm-hmm. Comme j'ai été membre auparavant du RPR ou de l'UMP, comme je suis membre de la famille gaulliste depuis que j'ai 15 ans, et ça reste ma principale fierté, d'être engagé pour le général de Gaulle et derrière lui à l'époque. J'étais d'ailleurs à l'époque dans le parti de l'Union des Jeunes pour le Progrès.
Donc
le mot de progrès n'est pas un mot archaïque, ni le mot de progressiste, je puis dire. Et il appartient à beaucoup de gens. Donc je suis loyal dans ce parti, même si je dois dire que je suis souvent minoritaire.
C'est-à-dire ?
J'ai souvent été dans une minorité dans mon parti, et beaucoup plus européen que beaucoup de mes amis.
Mais certains de vos amis, comme Jean-Pierre Raffarin ou Alain Juppé, ont fait le choix de soutenir...
Moi, j'ai fait le choix d'être dans ce parti, d'y avoir de l'influence et d'y peser, d'être loyal à ma famille politique et à la famille européenne du Parti populaire européen.
Et donc là, aujourd'hui, vous reconnaissez dans la liste Bellamy, Danjean, Evraine et la liste des Républicains ?
Il y a des points de convergence importants, et je vous ai dit quel serait mon vote personnel, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Mmh. Je suis un militant, comme beaucoup de gens le sont. Cette loyauté à l'égard de mon parti, elle me donne aussi une liberté. C'est celle d'appeler dans mon parti et les autres formations politiques à être à la hauteur des enjeux, de la gravité de la situation, d'être à la hauteur de l'héritage que nous avons reçu depuis De Gaulle et tous les présidents de la République qui se sont succédés, jusqu'à y compris Nicolas Sarkozy, dont j'ai été le ministre, d'être à la hauteur de leur action européenne et de vouloir une France européenne. Mmh. C'est ça l'enjeu. Et donc quand dans mon parti, je sentirais des réticences ou des réserves. Prenons un exemple concret, qui n'est pas seulement idéologique, celui de la souveraineté européenne. Mmh. Je sens dans mon propre parti des réticences sur ce concept de souveraineté européenne. Moi, je dis que cette souveraineté européenne, elle est obligatoire et qu'elle doit s'ajouter à la souveraineté nationale. Cette souveraineté européenne, c'est la liberté, c'est l'indépendance de l'Europe. Je suis convaincu qu'aujourd'hui,
sur cette question-là, sur les autres questions, est-ce que François-Xavier Bellamy vous a rassuré jusque-là?
Je ne connais pas personnellement François-Xavier Bellamy, même si je l'écoute. Je ne suis pas complètement rassuré sur cette question. Et je demande à l'être.
Mais encore une fois,
je ne suis pas là pour distribuer des bons et des mauvais points. Mais je ne suis pas en campagne électorale et je ne cherche pas à donner des consignes de vote. Excusez-moi. Donc je vais m'en tenir au fond et je préfère parler du fond.
Mais justement,
par exemple, un point de convergence que je peux avoir avec le président Emmanuel Macron, qui porte cette idée d'une souveraineté européenne, parce que c'est vital.
Il n'en parle plus dans sa lettre aux Français, il ne parle plus de souveraineté européenne. On a le sentiment qu'il a lui-même baissé l'intensité de l'engagement de son
point de vue-là. Pour en avoir souvent parlé avec lui personnellement, je n'ai pas le sentiment qu'il ait abandonné cette idée que l'Europe soit une puissance, soit un acteur global. Si vous regardez, je pourrais vous montrer des tableaux, mais c'est difficile pour les auditeurs qui nous écoutent, montrant les 10 pays les plus importants du monde aujourd'hui, tous les 10 ans, à partir de maintenant jusqu'en 2050. Il y a aujourd'hui 4 pays européens qui font partie du G10. L'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et la France. Et tous les 10 ans, au rythme probable de l'évolution, parce que personne ne nous attend dans le monde, parfois on nous espère, mais plus personne ne nous attend. Tous les 10 ans, il y en a un des 4 qui est éjecté du tableau. Et en 2050, seule l'Allemagne est dans le G8. Si nous restons ensemble, nous restons à la table. Deuxième, troisième ou quatrième. Et ceux qui sont seuls, ceux qui ont choisi d'être solitaires plutôt que de rester solidaires, sont exclus de la table, deviennent sous-traitants, deviennent sous influence. Moi, je ne me suis pas engagé en politique pour être sous-traitant et sous influence des Chinois ou des Américains.
Si vous parlez de l'Allemagne, justement, est-ce que le couple franco-allemand existe encore ?
Oui, il existe. Et ce couple, moi je l'observe depuis très longtemps, puisque la raison de mon engagement politique se trouve d'ailleurs dans mon bureau à Bruxelles par une photo qui est celle de la poignée de main entre Konrad Adenauer et le général de Gaulle. Et si vous regardez cette photo, vous y voyez Sylvain Maillard et Grégory Besson-Moreau qui sont les deux premiers députés de la nouvelle majorité qui sont dans cette salle.
Mais je vous posais la question parce que quand
on a vu cette photo, cette photo, elle illustre un respect infini entre ces deux géants que sont de Gaulle et Adenauer.
Mais ce couple n'a jamais été facile. On a un président de la République qui aujourd'hui assume et a assumé jeudi soir dans sa conférence de presse des différences de point de vue avec l'Allemagne. Il y a la CDU qui a quasiment rejeté l'intégralité de ses propositions de sa tribune.
Pourquoi voudriez-vous que les positions françaises et allemandes soient a priori convergentes sur tous les sujets ? Ce dialogue franco-allemand, il n'a jamais été spontané. Ce n'est pas vrai. L'autre jour, le ministre de l'économie française et le ministre de l'économie allemande se sont mis d'accord pour créer une filière sur les batteries électriques. C'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres.
Mais la CDU, et on sur les le voit. Social, la mutualisation des dettes, a dit ça vraiment, on n'en veut pas.
Excusez-moi, vous êtes journaliste, je comprends que vous regardiez toujours ce qui ne va pas. Laissez-moi dire les points positifs dans ce dialogue franco-allemand qui ont été traduits dans le traité d'Aix-la-Chapelle en particulier. Mais il y a des points de divergence, il y a des intérêts différents, et c'est toujours le cas depuis toujours, sauf peut-être dans la période bénie où Valéry Giscard d'Estaing avait une complicité amicale et personnelle avec Helmut Schmidt. Mais de tous les autres couples, il y a eu des débats et des discussions. Maintenant, je voudrais vous dire une chose, c'est qu'il ne faut pas avoir une vision trop hexagonale, ne pas seulement voir Berlin, Paris ou Bruxelles. De grâce, regardez ce qui se passe ailleurs en Europe. Le dialogue franco-allemand, il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Et vous avez des pays qui comptent, tous les pays européens comptent, qu'ils soient grands ou petits. Où se trouve la base technologique la plus importante d'Europe aujourd'hui ? En Suède, autour de Stockholm. La Pologne a un rôle important à jouer. L'Italie ou l'Espagne aussi. Les pays baltes. Chaque pays, l'Espagne qui est notre porte ou notre pont vers cet immense continent qu'on néglige de l'Amérique latine. Chaque pays européen a une valeur ajoutée. Et le rôle des institutions européennes, du président de la Commission, c'est effectivement de tenir compte de cette valeur ajoutée et de respecter chacun des pays.
Le Parlement européen, il doit rester à Strasbourg ? Parce que la CDU dit faut qu'il soit totalement
Bruxelles.
Oui, mais
c'est pas parce que la CDU dit cela qu'on ne doit pas respecter le traité dont je parlais tout à l'heure, puisque vous m'avez reproché de mettre...
Vous ne reprochez rien du tout.
Oui, si, vous m'avez reproché de mettre le traité en avant tout à l'heure. Le traité prévoit clairement le siège des
États-Unis. Et le siège de la France à l'ONU.
Et franchement, mais il n'est pas en question non plus.
Ah ben, la CDU aussi, le meilleur question.
Non, ce n'est pas vrai. La CDU veut un siège pour l'Allemagne, ce que je trouve légitime, compte tenu de l'importance de ce pays, ce n'est pas prendre le siège de la France. Maintenant, ce que ça veut dire, que ceux qui ont un siège permanent comme la France ou le Royaume-Uni pour l'instant, ou les sièges temporaires comme l'Allemagne l'a eu ou l'aura, discutent ensemble au niveau de l'Europe. Oui, je pense que c'est important qu'on discute ensemble pour exprimer des positions communes face au reste du monde, à New York. Oui, je pense que oui.
Je reviens sur l'après-élection. Est-ce que Emmanuel Macron aura les moyens de ses ambitions, notamment, par exemple, il veut réformer Schengen. Est-ce que demain, dans la formation du Parlement européen, il pourra réellement faire quelque chose?
Bon, je pense qu'il pose de bonnes questions. Mmh. Il faut que Schengen fonctionne. Quand on parle de Schengen, on parle du défi des migrations.
Oui.
Ou de l'immigration non contrôlée. Il faut des frontières, il faut des règles communes et il faut de la solidarité. Et on n'a pas tout ça actuellement. On a des frontières qui ont souvent été des frontières passoires. Voilà pourquoi, encore une fois, le président de la Commission, que M. Beck critiquait, a proposé la création d'un corps européen de garde-frontières, de garde-côtes. 10 000 postes nouveaux vont être mis en place d'ici 5 ou 6 ans. 10 000 postes de garde-frontières européens pour contrôler mieux les frontières. Il faut des règles communes.
Et il y a des pays qui refusent de prendre leur part de migrants, ce qu'on appelle la solidarité. Est-ce qu'il faut leur imposer?
Je pense que dans le domaine européen, il faut parfois des contraintes, mais il faut davantage travailler sur le contrat que sur la contrainte. Voilà ce que je pense. Et donc, encourager les pays à prendre leur part et naturellement faire aussi que le corpus de base qui est inscrit dans le traité, mais qu'on doit également prouver tous les jours, faire la preuve tous les jours de cette promesse que nous sommes faites au début, qui est le socle des valeurs liées aux droits de l'homme, aux droits de la femme, doit être respecté aussi.
Une dernière question avant les questions sur les réseaux sociaux. Vous aviez été candidat en 2014 pour la présidence de la Commission européenne. Serez-vous candidat cette année pour cette présidence ?
Mais je ne l'ai pas été. J'ai le souvenir très précis de cette campagne que j'ai faite pour être le chef de file aux élections européennes du PPE.
Donc, pour avoir
de ma
la
famille
présidence
politique,
de la Commission européenne.
Et j'ai été en confrontation d'ailleurs avec Jean-Claude Juncker.
Ouais.
Et c'était un combat et il a gagné loyalement. J'ai renoncé, excusez-moi, j'ai renoncé au congrès d'Helsinki, du dernier congrès du PPE, il y a quelques mois, en novembre, à être candidat parce que je ne pouvais pas. Parce que je ne pouvais pas être candidat aux élections européennes. Et la suite des choses a prouvé que je n'aurais pas pu l'être. Sauf à renoncer à cette mission du Brexit.
Mais ça veut pas dire que vous ne pouvez pas être candidat à la présidence de la Commission.
Et moi, je ne pouvais pas être candidat aux élections européennes, ni mener la liste, ni le combat de mon parti, puisque la tâche n'était pas finie.
Mais effectivement, ça ne vous empêche pas d'être candidat.
Mais ce n'est pas une question d'actualité pour moi. Laissez ce processus se dérouler normalement. Manfred Weber a été désigné. Il mène une bonne campagne. Laissez ce processus se dérouler normalement.
Est-ce que les négociations sur le Brexit pourraient vous empêcher, celles que vous avez évoquées en début d'émission, d'être candidat?
Je ne suis pas candidat aujourd'hui à la Commission européenne.
Mais vous dites qu'il faudra quelqu'un qui fasse une majorité entre les trois principaux groupes. Donc ça correspond un peu à votre portrait.
Pas aujourd'hui.
Je dis simplement que les traités européens prévoient que le président de la Commission doit être proposé, choisi par le Conseil européen, le Conseil des 28 chefs d'État, si Madame May est toujours là, et ensuite agréé par une majorité au Parlement. Voilà ce que je dis. Et là, il y a un processus que j'ai approuvé, celui de ces chefs de file qui personnalisent et qui donnent davantage
de
démocratie.
Donc, pour résumer, vous n'êtes pas candidat aujourd'hui. C'est le moment de questions nettes.
Le grand jury, questions nettes.
Avec Marie-Pierre Haddad, bonjour.
Bonjour à tous.
Quelles sont les questions ou remarques sur RTL.fr?
Alors, bonjour Michel Barnier. On a eu énormément de commentaires concernant donc évidemment l'Union européenne. Et il y a un commentaire qui vous est adressé directement, c'est celui de Youlak sur RTL.fr. Il vous dit: pourquoi cet acharnement thérapeutique? L'Union européenne est maintenue artificiellement en vie. Elle a trop lutté contre les peuples. Comment est-ce que vous faites pour lui redonner confiance en l'Europe?
Je ne suis pas du tout d'accord avec ce mot d'acharnement thérapeutique.
Il y a eu beaucoup de mots très forts comme ça employés.
Oui, mais ce qui prouve bien la colère, l'incompréhension et cette distance entre les citoyens. Comment on fait? On fait en ayant un agenda positif que les citoyens comprennent comme un agenda qui les protège et qui leur montre la valeur ajoutée de l'Union européenne, d'être ensemble. C'est le grand changement climatique qui est pour moi la première priorité. L'Europe verte, de manière très concrète, avec l'économie circulaire, la biodiversité, l'être un continent décarboné, complètement décarboné en 2050. C'est les quatre grands chantiers que je qualifie de chantiers de la proximité avec les citoyens et de la souveraineté. L'Europe verte, l'économie pour tous, notamment de relever ensemble la guerre technologique que nous livrent un certain nombre de grandes multinationales et d'autres pays, les migrations et la défense et la sécurité. Sur ces quatre sujets, je pense que l'Europe doit avancer ensemble et démontrer sa valeur ajoutée.
On n'a pas votre candidature, mais on a votre programme. Marie-Pierre.
Justement, en parlant d'Europe verte, jeudi, l'ancienne ministre de l'écologie, Corinne Lepage, a déposé un recours contre, je cite, l'inaction fautive de l'État dans le dossier du glyphosate. Ça faisait référence en janvier dernier à Emmanuel Macron qui a déclaré que non, la France ne parviendrait pas à se passer à 100% du glyphosate. Donc vous, vous avez cette double casquette d'ancien ancien ministre de l'Agriculture, ancien ministre de l'Environnement. Est-ce que vous comprenez le recul d'Emmanuel Macron sur le glyphosate ? Est-ce que c'est à cause des lobbies ?
Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron ait reculé. Et la France a même pris la décision de supprimer le glyphosate ou l'usage du glyphosate plutôt que d'autres. L'Europe, d'ailleurs, vient de décider avec le Parlement européen une mission d'inspection pour évaluer. Je crois beaucoup d'ailleurs à la culture d'évaluation des lois européennes. On ferait bien de faire ça de temps en temps en France. Il faut simplement aussi avoir de l'attention pour les agriculteurs. Et si on leur supprime l'usage du glyphosate ou d'autres pesticides ou herbicides, il faut qu'ils aient des solutions alternatives. Je pense que depuis longtemps, les paysans sont les premiers écologistes. Ils savent les dangers de certains produits. Ils ne les utilisent pas par plaisir. Il faut simplement, pour protéger les cultures, trouver des solutions alternatives. J'ai été le ministre de l'Agriculture qui a enclenché le plan Ecophyto, qui a été un peu dilué ou retardé. Je considère que c'est toujours une obligation qu'on doit gérer, non pas contre les paysans, mais avec eux.
Et Raphaël Glucksmann, le tête de liste Place Publique, qui est soutenu aussi par le Parti Socialiste, lui propose de créer un impôt européen pour faciliter, pour financer la transition écologique. C'est une bonne
idée. Sur le kérosène.
Est-ce qu'il faut en arriver là ?
Je ne pense pas qu'il faille créer de nouveaux impôts. Les gens en ont ras-le-bol des impôts. Et on revient à la fin de cette émission, à la première question sur les gilets jaunes. Je pense qu'on peut organiser les impôts différemment. Un des impôts nouveaux, en revanche, sur lequel je serais favorable, c'est celui sur les transactions financières, évidemment, et sur les GAFA pour qu'elles payent les impôts liés à leur marché européen. Ça serait juste de le faire. Pour le reste, faisons attention à ne pas surcharger la barque. On peut redistribuer les impôts différemment. On peut sans doute créer aussi des contrôles et des taxes sur les produits que nous importons. Là, je réponds clairement aux défis écologiques qu'expriment tant de jeunes actuellement. Et moi, j'écoute aussi les jeunes qui sont dans la rue. Et il faut leur répondre. Créer un taxe ou un impôt à l'entrée des produits, quand ces produits ne respectent pas les règles écologiques, notamment de la neutralité carbone que nous imposons, nous, à nos propres producteurs, je pense que ce serait juste.
Merci beaucoup, Michel Barnier. Merci d'avoir suivi ce grand jury. La semaine prochaine, vous retrouverez Benjamin Sportouche. Je vous souhaite un excellent dimanche.